Salut à tous, c'est Andrea, donc bienvenue dans ce quatrième épisode de l'OTA Club. Je suis toujours avec Peli. Salut Peli.
Salut tout le monde, comment allez-vous?
Eh ben moi en tout cas ça va bien et j'espère que toi aussi parce qu'aujourd'hui on a un programme chargé. Pour ma part je vais parler de créatures abyssales et toi?
Moi je vais parler du nouveau manga de la mangaka qui a fait Fullmetal Alchemist, Tsugai.
Sacré programme. Du coup, bah, je te laisse commencer les festivités.
Allez, c'est parti. Bon, comme tout grand fan de manga qui se respecte, vous connaissez bien sûr Fullmetal Alchemist, le super manga réalisé par l'autrice Hiromu Arakawa. Et bien, Arakawa est de retour avec son nouveau manga depuis 2021 au Japon, mais qui vient tout juste de sortir en France, le tome 1. C'est un manga en 4 tomes pour l'instant, il me semble, au Japon. Et ça s'appelle Tsugai of the Underworld. Tsugai, tout simplement. Donc, l'histoire se déroule dans un petit village isolé en pleine montagne. Un endroit comme tant d'autres, à une exception près, la prison installée au cœur du village. Yulu et sa sœur jumelle, Asa, vivent dans ce village depuis toujours, mais n'ont jamais vraiment eu d'interaction avec la prison. Un jour, pourtant, Asa est convoquée pour y travailler et y est confinée. Séparée de sa sœur, Yulu va peu à peu découvrir les secrets de son village. Jusqu'à ce qu'il y ait une attaque sur ce village et que Yuru doive quitter le village pour intégrer entre guillemets le monde réel. Alors découverte pour moi parce que bon, je dois avouer quelque chose, je n'ai jamais lu Fullmetal Alchemist.
Oh là là, moi non plus.
Voilà.
Ça va. Mais je compte bien rattraper cette erreur.
Voilà, je compte bien aussi rattraper cette erreur. J'ai les 8 premiers tomes et je compte bien aller au bout de l'édition perfecte pour pouvoir lire tout ça et surtout pouvoir vous en parler, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, bon bah allez, c'est le moment peut-être de regarder Tsugai, voir ce que ça donne. J'ai été un peu mi-figue mi-raisin sur ce premier tome. Pour tout vous dire, j'ai bien aimé le scénario, le dessin est franchement sublime. Bon, je connaissais les dessins de Arakawa via Fullmetal Alchemist, mais là, ça m'a permis de voir un peu plus, et effectivement, c'est assez cool. Par contre, j'ai été déçu un peu en termes de scénario. J'aurais préféré qu'ils sortent les 2 premiers tomes d'un coup. C'est ce qui se fait un peu de plus en plus dans le manga maintenant, c'est qu'en général quand ils sortent une nouveauté, ils sortent les 2 premiers tomes d'un coup, histoire qu'on se familiarise bien avec le manga. Et là pour le coup, bah, malheureusement, ils ont juste sorti le 1 et je suis un peu resté sur ma faim, parce que le scénario va assez vite et malheureusement à la fin on a plus de questions que de réponses, et c'est vrai qu'un tome 2 directement ça aurait peut-être été assez cool, histoire d'un peu apaiser la bête de lecture que je suis. Du coup, j'ai bien aimé les personnages principaux. On a un lore qui se met en place avec des créatures divines qui est plutôt assez intéressant. J'ai bien aimé ce parallèle entre le petit village caché dans la forêt, un espèce de monde parallèle à part, et le monde réel, qu'ils appellent Baster dans le manga. Donc ce qu'ils appellent Baster dans le manga, c'est en fait le monde réel, et eux, ils sont dans une espèce de dimension, de ce que j'ai compris, une dimension parallèle au final, qui fait office de village un peu à l'ancienne du Japon médiéval. Donc ce parallèle-là, j'ai assez bien aimé, parce qu'on a droit du coup à des petites blagues assez rigolotes, un peu à la Dragon Ball, avec Sangoku qui découvre pour la première fois les voitures, etc. Bah là, on a la même chose avec Yuru, le jeune qui vient d'un monde parallèle, qui découvre la voiture, qui découvre les ordinateurs, etc. Enfin bref. Donc voilà, pour l'instant, à voir pour la suite, mais c'est vrai que ce premier tome m'a laissé sur ma faim, donc j'ai hâte de voir la sortie du tome 2. Je sais pas du tout quand le tome 2 va sortir, je pense assez rapidement, parce que mine de rien, ils en ont fait une belle promo, ils ont sorti un exemplaire classique et un exemplaire un peu collector, donc ça c'est assez cool, donc à voir sur le tome 2.
Le 12 octobre.
Le 12 octobre, parfait, merci André, oui. Heureusement que tu es là. Donc le 12 octobre, ça va, ça laisse encore un peu de temps, même si bon, j'aurais pas refusé qu'il le fasse en septembre, c'est vrai que
c'est vrai que pour une nouveauté, surtout d'une autrice aussi attendue, ça fait long comme délai de parution, c'est étonnant. J'aurais attendu plus de 2 mois entre chaque tome à la limite, mais...
Alors après, il faut savoir qu'au Japon, pour l'instant, ils sont sur 4 tomes de sortie.
C'est peut-être pour ça, lui laisser le temps de continuer.
C'est assez long, hein, parce que ça a commencé en 2021, Et là, du coup, on est en 2023, donc uniquement 4
tomes. Ouais, ça fait 2 tomes par an, quoi.
2 tomes par an, c'est une publication assez longue, donc voilà. À voir, franchement, j'ai pas été déçu tout de même, mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, un tome 2 n'aurait pas été de refus.
Je comprends bien, effectivement, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup en ce moment, donc... Je pense que pour ce genre d'histoire très très dense, effectivement, pour pas perdre les gens à la fin du tome 1, bah ouais, sortir le tome 2 tout de suite, ça maintient un peu en haleine, quoi.
Ouais, ou tu vois, par exemple, sortir peut-être, pas longtemps après, mais vraiment avoir une continuité super rapide, surtout qu'à la fin du tome... Sans trop spoiler, à la fin du tome 1, on a un cliffhanger qui donne vraiment envie d'enchaîner tout de suite. Parce qu'il y a de l'action, voilà, il y a de l'action qui arrive à la fin de ce tome 1. Donc on a envie d'avoir la suite, bien sûr. J'ai bien aimé le concept de Dieu Seiyu. Alors je ne sais pas si je le dis correctement, Dieu Seiyu. Donc c'est des divinités qui protègent. Qui protège Yuru. Donc voilà, j'ai bien aimé ce concept-là, un peu comme des... parler vulgairement, je sais pas, des espèces de... des esprits protecteurs, un peu comme des Pokémon.
Des anges gardiens.
Des anges gardiens, des choses comme ça, avec des pouvoirs magiques, et il y en a différents, donc c'est assez intéressant, ça peut être vraiment cool sur certains combats, mais voilà, le tome 1 est malheureusement trop maigre pour tout de suite se dire « Allez, c'est parti, on reste, voilà. » Il va vraiment falloir que le tome 2 accélère tout de suite pour me donner envie de continuer la série.
Ouais, faut pas qu'il y ait une baisse de régime.
Non, mais...
Du coup, j'ai hâte de le découvrir.
Bah oui, et faut pas hésiter à le lire. C'était vraiment une lecture intéressante. Mais après, je sais pas si on a d'autres mangas dans ce style-là où le tome 1 est tranquille et après ça commence à s'accélérer. Il doit y en avoir plein, hein, mais c'est vrai que là, c'est assez flagrant.
Si je me trompe pas, parmi les grosses séries qui sont sorties cette année, il y a Windbreaker où justement ils ont sorti le 1 et le 2 en même temps parce que le 1 c'est pas mal d'exposition. Et comme ça, pour pas perdre les gens, ils ont mis le 2 tout de suite. Et ils ont eu raison, et c'est Pika qui a fait ça. Très très bon choix parce que du coup la série cartonne. Est-ce que s'ils avaient sorti que le 1, il y aurait eu un tel succès?
Ouais, et puis cette année ils ont fait ça aussi sur Manabook avec Level 999, ils ont fait ça aussi de sortir les deux premiers.
C'est ça. On a eu Gachakuta,
voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que ça se fait de plus en plus de sortir les deux premiers tomes d'un coup pour vraiment donner l'envie. On a eu aussi
même chez Mabane, qui est une petite maison d'édition, ils ont sorti Mazarian, 2 tomes sur 3 d'un coup. Bon, moi j'aurais préféré les 3 d'un coup tant qu'à faire, mais bon.
Après, c'est sûr, si on s'arrête au tome 3, oui, effectivement, là autant sortir les 3 d'un coup.
Oui, là c'était un petit peu bizarre, mais bon.
On a eu chez Mangetsu Ikusanoko, qui aussi a sorti les deux premiers tomes d'un coup. Et là on voit que vraiment à la lecture d'Ikusanoko par exemple, là, le premier tome n'aurait pas suffi. Effectivement, il fallait mettre ce deuxième tome tout de suite pour mettre en bouche ce manga. Pardon. Effectivement. Et toi aujourd'hui, Andrea, tu vas nous parler de Deep Sea Aquarium Magmel.
Tout à fait. Donc c'est chez Vega Dupuis et donc l'auteur c'est Sugishita Kiyomi qui pour l'instant, en tout cas en France, n'a rien sorti d'autre. Donc, dommage, parce que j'aime beaucoup son trait. Déjà, pour commencer, je trouve que les dessins sont très beaux. Ils sont pas du tout réalistes. C'est pas recherché dans ce sens-là, du moins pour les humains. Mais je trouve qu'ils ont un sacré caractère. Alors, du coup, de quoi ça parle? Ça se passe aux alentours des années 2050. Et au Japon, un aquarium type La Rochelle ouvre à 200 mètres de profondeur parce que le directeur voulait que les visiteurs puissent voir les créatures des abysses directement dans leur milieu naturel, parce que les maintenir en aquarium, c'est extrêmement compliqué, à cause de la pression, la luminosité, tout ça. C'est pour ça qu'on n'en voit quasiment jamais dans les aquariums. Et donc, à l'ouverture, il y a un jeune garçon qui a 12-13 ans, qui vient, et qui est complètement subjugué par tout ce qu'il voit, et qui se dit qu'un jour, il voudra absolument travailler dans cet aquarium, sachant que son père est photographe abyssal, et qu'il est parti faire le tour du monde parce qu'il a une chose à trouver. Il n'a pas dit quoi, il a dit « mais je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas trouvé, je vais sillonner toutes les mers, aller au fond de tous les abysses pour le trouver ». Donc, salut papa, hein. Et donc, il y a une ellipse temporelle. 5 ans plus tard, on retrouve notre héros qui s'appelle Kotaro, qui bosse dans l'aquarium Magmel, ouais, en tant que balayeur. Bah ouais, parce qu'il n'a pas de connaissances, il n'a pas passé de diplôme de soigneur ni quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, lui il est super content parce qu'il est au milieu des poissons tout le temps et c'est tout ce qu'il voulait. Mais évidemment, vu qu'il est passionné, il a énormément de connaissances, donc à force de parler avec les soigneurs et le directeur, il va avoir de plus en plus de missions qui vont lui être confiées. Et on va... Alors, est-ce que c'est réaliste ? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, il va travailler avec les pêcheurs. Quand ils ramassent des poissons, des abysses qui peuvent pas être vendus, ils appellent l'aquarium, ils leur donnent pour éviter de juste le tuer bêtement. Il va faire pas mal de présentations au niveau des visiteurs aussi, pour essayer de les sensibiliser à certaines bestioles, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, les abysses, c'est peuplé de monstres. Forcément. Ils ont juste des têtes pas possibles, les animaux là-bas. Bon, moi j'adore ça, parce que je suis bizarre, mais, mais ouais, c'est juste fascinant. Et en fait, chaque chapitre ne se suit pas spécialement. Il y a une trame de fond, mais ça va être des mini-histoires les unes après les autres. Et à la fin de chaque chapitre, il y a une description, des explications sur l'animal en question, dont il a été question dans le chapitre. Et ça a été écrit par un ancien directeur d'aquarium japonais. Donc, le monsieur, c'est un peu ce qu'il raconte. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, au-delà de l'aspect tranche de vie que moi j'adore, je suis une grande fan du genre. C'est, voilà, chaque chapitre, c'est vraiment un sujet de société, mais c'est récent, donc c'est quelque chose qui nous parle vraiment. Ça va être un père qui néglige ses enfants au point de les perdre dans l'aquarium et ils sont fous, voilà. Donc il se prend un peu un savon par les employés. Une prof qui est au bord de la crise de nerfs parce qu'elle n'a pas du tout d'autorité et ses élèves l'écoutent pas et elle en peut juste plus. Il y a un transgenre aussi qui va intégrer l'équipe. C'est, voilà, une fois de temps en temps, on a un chapitre comme ça qui nous sort de la vie de l'aquarium. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est toutes les doubles pages, ou même les grandes illustrations sur une seule page, où les humains sont mélangés avec les créatures abyssales. C'est juste trop beau. Ce que je disais au début, voilà, la façon de dessiner, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Alors c'est vrai que pour le coup, je ne vais pas en dire grand-chose, parce que c'est de la tranche de vie. Donc ça se découvre. C'est une lecture plaisir. On prend ça le soir quand on n'a pas envie de se prendre la tête, ou le week-end, c'est tranquille. Tiens, je vais faire un petit tour avec les poissons. Ça se lit tout seul. Les 8 tomes, mine de rien, ça parle plutôt pas mal, vu que ça reste quand même des explications sur toutes ces bestioles-là. Voilà, il y a du dialogue. Mais c'est jamais chiant, c'est pas un cours d'université sur les requins, non, non. Parce que, bah, y a Kotaro qui sait pas mal de choses, mais il en apprend beaucoup, et en fait, on est placé au même niveau que lui. Donc, c'est expliqué de façon vraiment très, très fluide et très simple. Ouais, lecture détente, comme je dis à chaque fois. Et moi, j'ai adoré. J'attends la suite avec impatience, mais bon, voilà, 8 tomes en 4 ans. Pour l'instant, la suite n'est pas annoncée, donc j'ose espérer que l'auteur va continuer. Parce que le problème de ce genre d'histoire, en vrai, c'est que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ouais. C'est une tranche de vie, donc on va pas attendre que les personnages meurent, hein, ce serait trop triste, c'est pas le but. Bah, on m'annoncerait que le 8e est le dernier, ça me choquerait pas.
Je te rassure, le tome 9 devrait paraître au Japon en septembre.
Alléluia ! Combien de temps vont-ils mettre à nous l'amener en France, mais...
Normalement, il y aura un tome 9, donc en général, il faut compter peut-être un an. Mais là, ça fait... Des fois, ça dépend.
Alors, pour traduire 200 pages. Ah là là.
Alors après, ça dépend. Alors après, c'est publié en France chez Vega Dupuis. Et Vega Dupuis font un excellent taf sur la tranche de vie, surtout. Et les covers, elles sont sublimes. Les covers de Deep Sea.
Oui, c'est ça. Mais même quand on prend le temps de le feuilleter, il y a beaucoup de double pages. Je dis vraiment, les humains sont mélangés avec les poissons et c'est un côté assez onirique, en fait. Et quand il part dans ces délires-là, bon, bien souvent, il y a la petite phrase philosophique ou la révélation sur la vie, bon. Mais en vrai, c'est tellement bien dessiné qu'on passe ce cliché-là. Moi, je lui pardonne.
Non, mais c'est vrai que le dessin intrigue vraiment pas mal, ces petits personnages avec les grands yeux, des grands yeux bien
ouverts. Pas du tout réaliste, les personnages.
Ouais, non, non, mais c'est bien, de temps en temps, c'est ce qu'on demande aussi, c'est pas plus mal, et c'est vrai que cette petite partie d'informations qu'on a sur les poissons, sur tout ça, sur les espèces sous-marines, ça peut être vraiment intéressant, donc effectivement, à voir. C'est vrai que ça m'intrigue personnellement, donc je pense que je lirai le premier tome pour le découvrir aussi.
Franchement, moi, j'ai accroché tout de suite, et ça m'a fait rire, parce que bon, je suis très curieuse, et j'adore apprendre plein de choses, surtout sur les animaux. Et ouais. Du coup, quand il y avait une description d'un poisson qui m'intriguait vraiment, j'allais voir sur Google, rapidement, sur mon téléphone, et à chaque fois, j'avais la photo du poisson, et la photo de la page du manga à côté. Comme quoi, c'est vraiment la référence, en fait, dans le domaine.
Ah bah oui. Hein.
Ça m'a fait beaucoup rire que, systématiquement, je fais « Ah, quand même, quand même.
» C'est pas mal. Donc, c'est écrit par Sugishita Kiyomi.
Tout à fait.
Et c'est un seinen. Alors, par contre, il le classe dans les drames, Slice of Life,
oui,
drame.
Je sais pas pourquoi drame, honnêtement. Ouais. Bon. Il y a un fond d'histoire triste, hein. Bah, toujours quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille parmi les personnages principaux, ok, mais on voit pas la mort de quelqu'un, il va pas finir à la rue, enfin voilà, c'est... Moi, je le classe vraiment pas dans le drame. C'est le genre d'histoire que je conseille même aux enfants sans aucun problème.
Bon, bah très bien.
À partir
bien,
d'une dizaine d'années. C'est la tranche de vie comme ça. Oui, bah, avant ça, c'est peut-être un petit peu pointu et peut-être qu'ils vont un peu s'ennuyer. Après, si c'est un enfant qui adore les animaux, qui veut en apprendre dessus, je dis, bah vas-y, tu vas t'éclater, en fait. Mmh. Donc, non, il y a vraiment... Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de triste dedans.
Ok, très bien. Bon, bah, magnifique. Deux bonnes lectures, donc, à faire, donc Tsugai et Deep Sea Aquarium Magmel. Donc, voilà, hein, donc, dépêchez-vous d'aller dans votre boutique manga préférée et d'aller acheter ces tomes-là pour les lire, les découvrir et nous envoyer un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé.
Tout à fait. Faut pas hésiter. Je veux savoir s'il y a d'autres gens qui aiment les bêtes cheloues qu'il y a au fond de l'océan.
Ouais, voilà. Moi aussi, je veux savoir s'il y a d'autres gens qui aiment les bêtes cheloues comme elle. c'est quand même particulier parce qu'il y a, quelques semaines, on a fait un podcast où tu me disais que t'aimais pas... c'est quoi, c'était les escargots ?
Oui.
Oui, tu as la phobie des escargots.
J'ai la phobie des escargots et des limaces, mais ça vit sur Terre, alors c'est nul. Là, les bestioles final... cheloues qui vivent au fond de la mer, elles sont loin, elles m'atteignent pas, donc c'est ok. Et
ça ne te pose aucun problème.
Je ne serais pas fière de les avoir face à moi, mais bon, en général, ça mesure 20 cm. Alors, bon, un escargot moins, mais il ne faut pas chercher une phobie, c'est pas logique.
fais attention, on me dit dans l'oreillette qu'apparemment, il y aurait des petits problèmes de montée des eaux en ce moment sur Terre, donc fais attention.
Oupsi.
Ça pourrait arriver.
Et plus le beaucoup, il y a beaucoup de limaces dehors. Et là, c'est un environnement dangereux pour moi. Et
tout à fait, André. Fais très attention à toi.
Eh bien, du coup, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Comme on le disait, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire, repartager l'épisode si vous a plu ou si vous pensez que ces lectures peuvent intéresser quelqu'un de votre entourage. Ça nous ferait très plaisir et c'est le plus grand soutien que vous pouvez nous faire. Donc, on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, salut.